Mes chers amis, en ce matin du 12 novembre 1956, j'aime à vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus, celui qui, vendredi, nous a accueillis en nous disons du haut de sa gloire, je viens bientôt. Et nous savons que le Seigneur Jésus ne pouvait nous mentir. Il nous a redit hier, pour la deuxième fois, qu'il venait bientôt. Oui, je viens bientôt. Et qu'il venait pour rétribuer aussi bien les justes que les injustes. Rendre à chacun ce que serait son œuvre. Et alors, ce matin, notre mot d'ordre et notre réponse à la déclaration du Seigneur. Et je voudrais croire que vous êtes de ceux qui aviez des oreilles et qui les avaient ce matin pour entendre et que vous avez discerné par-delà mes paroles une voix plus autorisée que la mienne, celle du Seigneur Jésus. Oui, je viens bientôt. Et quelle est notre réponse? Nous pouvons dire, viens, Seigneur Jésus. Et quand nous disons cela, parce que nous avons entendu sa voix, nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, et avec l'épouse. Et l'épouse, qu'est-ce que c'est? C'est une église qui aime son Seigneur, son époux, et qui se réjouit de ce jour des noces, et des ici-bas pioncées à Christ, et des incomprises du monde, et elle sent que son vrai, sa vraie maison, c'est la maison du Père, où le Seigneur lui a préparé une place. Alors, elle se réjouit de l'accomplissement de cette promesse. Et quand il viendra sur les nuées du ciel, comme il l'a promis, il l'attirera à lui. Et c'est notre bonheur de penser que cela peut se produire d'une façon très rapide, parce que le « je viens bientôt » veut dire « je viens promptement, je viens vitement ». Et on a pu dire aussi qu'il signifiait ce mot, qu'il venait pour ravir les siens de devant un danger. Et ce danger terrible, bien nous le connaissons, nous le voyons, nous savons où va le monde. Mais ce que nous attendons pour nous, c'est le jour de Christ, le jour où il viendra pour prendre son épouse, le jour de Christ. Et ce qui me réconfortait ce matin, c'était cette parole de Philippiens au chapitre 1er, où l'apôtre Paul disait ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est lui qui fait cette œuvre, hein, eh bien qu'il la rendra parfaite pour ce jour de Christ. » Ça, c'est le jour de Christ. C'est le jour où il vient pour prendre son épouse. Et à ce moment-là, quand nous le verrons, nous le serons rendu semblable. Et déjà, en le contemplant maintenant, nous sommes transformés en la même image, et qu'il dit, de gloire en gloire, par nos efforts, par l'Esprit du Seigneur. Alors, laissons-nous transformer, et quand il viendra, eh bien, il achèvera son œuvre nous serons rendus semblables à lui. Et il est dit, celui qui a fait cette espérance en lui, nous vous avons parlé de l'espérance, est-ce que vous l'avez maintenant en vous cette espérance? Ou bien c'était une parole biblique, l'espérance qu'un jour, hein, le Seigneur reviendrait. Non, nous l'avons en nous. Celui qui a cette espérance en lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il se purifie comme lui-même est. Il n'y a pas de vérité plus sanctifiante que l'attente quotidienne du Seigneur. Et alors, vous avez bien compris qu'après le jour du Christ, qui se réunit à son épouse, il y aura le jour du Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas encore été manifesté dans toute sa gloire au monde, ce jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit pour ce monde, qui ne l'attend pas, qui sera occupé de toute autre chose, oui, on mangera, on boira, comme au temps du qui précédait le déluge, comme au temps qui a précédé la destruction de Sodome et de Gomorre, et nous sommes bien dans le temps de Sodome et de Gomorre, dans un temps semblable, eh bien, le Seigneur viendra et nous serons avec lui. Il nous associera à son règne. Si vous avez souffert avec lui, le mépris, la crucifixion, vous serez glorifié avec lui, et quand lui sera manifesté au monde, dans le jour du Seigneur, parce qu'il y aura un jour pour lui où il doit régner. La parole nous affirme, il faut qu'il règne. Et le Seigneur n'a pas régné. Il a été rejeté, et il est encore rejeté. À la fin de l'histoire de l'Église, on voit qu'il est rejeté, toujours rejeté. Eh bien, il faut qu'il règne. Et alors, nous savons maintenant ce qu'est le jour du Seigneur. Et quand il aura régné, établi son règne de justice par les jugements, ce n'est pas le monde chrétien qui va amener le règne du Seigneur, c'est le Seigneur qui vient pour régner et qui établit avec puissance et force et gloire son règne. Et quand il aura régné, ce règne de 1000 ans que nous avons simplement cité, ce règne où tout sera paix et où tout sera justice, parce que tout sera administré par le Seigneur et par les siens, nous aurons une part dans l'administration de ce royaume et dans ces 1000 ans de paix et de justice pour les hommes qui seront sur la terre aussi, mais qui devront se convertir. Mais ce sera beaucoup plus facile, semble-t-il, dans un règne de justice et de paix. Eh bien, les jeunes, après avoir régné ces 1000 ans, où Satan aura été lié et ne pourra pas nuire, eh bien, après ces 1000 ans de paix, quand Satan sera délié, parce que c'est pas moi qui le dis, il sera délié, et les hommes montreront bien que leur cœur est pervers. Ce sera la dernière manifestation du cœur de l'homme. Après avoir connu 1000 ans de paix, de justice, de guérison, de grande puissance, de délivrance, sous un règne absolument parfait, bien le monde suivra encore une fois sa vie. Et ce sera la dernière révolte. Et c'est là que le feu du ciel anéantira Satan et tous ceux qui l'auront suivi et qui se seront soumis au règne du Seigneur simplement parce que là, la peine de mort sera exécutée chaque matin. Le méchant ne pourra pas subsister pendant le règne du Christ. Chaque matin, le méchant sera exécuté. Vous avez cela au psaume 101. Et alors, évidemment, comme on ne veut pas cela, on fait peut-être le point dans sa poche, mais quand Satan sera délié, alors, la manifestation des cœurs sera faite. Et à ce moment-là, le Seigneur ayant régné, et le ciel et la terre seront consumés, et à ce moment-là, paraîtra le jour de Dieu. Il est dit que le Fils remettra le royaume à Dieu le Père. Et ce jour-là est appelé le jour de Dieu, et dans ce jour de Dieu, tout sera soumis à Dieu, le Fils y compris, et son Église, et Dieu sera tout en tout. Jour du Christ, jour du Seigneur, jour de Dieu. Maintenant, quelques-uns ont dit, est-ce que vous ne pourriez pas nous parler de la millénarisme ou du prémillénarisme? Mais, mes amis, je ne vais pas entrer là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a des personnes qui pensent que nous sommes déjà dans le règne. Et que Satan est lié, mais que sa chaîne est longue. C'est ce qu'on m'a dit à Paris. Mais Satan, il est déjà lié, mais sa chaîne est longue. Vous pensez que Satan est lié? Pas maintenant. Mais un jour, il sera lié. Alors, on serait déjà dans le millénium. Vous comprenez? On ne veut pas se soumettre à l'Écriture. Et c'est même des personnes évangéliques. Ils croient au Seigneur Jésus, je ne nie pas cela. Mais, non, on est dans le millénium. Et puis, il n'y a plus d'espérance pour Israël. Hein. L'Église a pris la place et c'est fini. Eh bien non, chers amis, le Seigneur a mis de côté Israël, mais pour autant, relisez les chapitres 9, 10 et 11 des Romains. Et il reprendra ses relations avec son peuple. Et nous voyons déjà des choses se préparer, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas encore accepté le Seigneur. De sorte que ce sont leurs efforts qui rétablissent une certaine prospérité en Israël. Il y a des Juifs qui m'ont dit, nous n'attendons pas le Messie, c'est nous qui sommes le Messie, c'est nous qui rachetons la terre d'Israël. Parce qu'on veut exclure Dieu. Et c'est pourquoi Israël marche aussi devant l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet de Dieu comme Père. Et la chrétienté, c'est le rejet de Christ comme Fils unique. Alors ils seront d'accord finalement, et ça sera l'apostasie. Mais le Seigneur aura la haute main sur tout cela. Alors, quand nous disons qu'on est prémillénariste, c'est qu'on croit que le Seigneur viendra avant. C'est ça, simplement. Eh bien, que le Seigneur vous donne non pas d'être ceci ou d'être cela, mais d'être des hommes et des femmes qui ont une espérance dans leur cœur et qui attendent le Seigneur et qui peuvent dire avec l'esprit et l'épouse, viens Seigneur Jésus, parce qu'on a entendu sa voix, et je dirais que c'est pas seulement avec l'esprit et l'épouse, mais c'est avec l'environnement, c'est avec la création tout entière. Dans le chapitre 8 des Romains, il est dit que toute la création est en travail et soupire après la manifestation des fils de Dieu. Et quand est-ce qu'elle aura lieu, cette manifestation? Quand Jésus lui-même sera manifesté. Mais il faut qu'il nous prenne d'abord auprès de lui. Ô Dieu notre Père, nous te remercions parce que quand nous lisons ta parole, nous savons qu'elle se tient et que tes paroles s'accomplissent. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, tu l'accompliras et tu as reçu. Nous savons que tu veux nous bénir et que tu ne révoqueras pas cette bénédiction. Alors de tout notre cœur, nous te donnons louange, honneur et gloire en te demandant que cette retraite se termine dans la paix, dans la joie et dans la certitude du retour de Jésus, notre espérance. Amen.
Amen.
Eh bien, je vous souhaite un bon repas de chapitre. Et les questions. Chapitre 3 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malheur. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la passion du Christ. Puis, quand on attend le Seigneur, est-ce qu'on arrête de travailler? Non. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Vous savez, c'est tellement simple, il n'y a pas besoin de commentaires. Et on est nourri quand on a lu un pareil texte et qu'on veut le mettre en pratique. Alors, les questions que je posais pour aider votre méditation, vous les avez donc à la page 10. La première, l'attente constante du retour du Seigneur doit-elle nous conduire à l'inaction? Deuxième question, les instructions et les exhortations de l'apôtre sont-elles encore valables pour nos communautés? Trois, quelle autorité Paul avait-il pour exhorter les Thessaloniciens à l'imiter? Quatre, qu'apprenons-nous chaque jour au sujet de l'amour de Dieu et de la passion du Christ? Puisque c'est cela que nous devrions considérer. Dieu notre Père, nous te remettons encore une fois cette matinée, nous désirons la passer sous ton regard et recevoir toute la bénédiction que tu as en réserve dans ton cœur pour nos cœurs s'ils s'ouvrent à ta grâce. En Jésus-Christ. Amen. Alors, on se retrouve dans cette salle. Alors, on fera d'abord l'exposé et puis après,
Et puis on aura encore un moment cet après-midi pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez vu. Donc, ce dimanche matin, nous avions le chapitre 3 à considérer. Et comme nous le disions tout à l'heure, au fond, il n'y a pas besoin d'un commentaire, mais nous voulons quand même le relire, reprendre ces versets pour qu'ils soient dans nos cœurs. Au reste, frères, priez pour nous. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Un grand apôtre. Et que demande-t-il? Il demande les prières. Priez pour nous. Il l'a déjà fait dans la première lettre. Il l'a déjà demandé. Priez pour nous. Et alors le nous, vous comprenez que c'est Paul, Sylvain et Timothée. Priez pour nous. Mais là, il précise encore qu'ils doivent demander. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Littéralement, afin que la parole du Seigneur court dans le texte le plus fidèle, afin que la parole du Seigneur se répande, couvre rapidement et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Qu'est-ce que c'est qu'une parole glorifiée? La parole est glorifiée quand elle est agissante. Une parole qui transforme, qui change ceux qui l'ont entendu. Leur conception, leur manière de vivre, leur manière de penser, leur manière de parler et leur manière d'agir. Alors, quand on voit que la parole, elle est vraiment glorifiée et elle est accréditée, mais si vous voulez que les gens croient la parole que vous voulez annoncer, il faut en vivre. Et il faut que on voit qu'elle a conformé votre vie. Il y avait dans notre vie un avant notre conversion et puis il y a un maintenant. Avant, nous avons pu être ceci, nous avons pu faire cela, nous avons pu dire certaines choses, mais maintenant, il y a des paroles qui ne passent plus sur nos lèvres. Et puis, les pensées, eh bien, nous savons maintenant nous en juger et non pas laisser ses pensées prendre corps et devenir des paroles ou des actions qui déplaisent au Seigneur. Alors je trouve que c'est merveilleux de penser qu'un apôtre comme Paul, il a besoin des prières. C'est son humilité qui nous est montrée ici. On ne dit pas, moi, je suis arrivé, non, j'ai besoin que vous priez aussi pour moi. Et surtout, ce qu'il demande là, c'est que cette parole soit glorifiée comme elle est chez vous. Donc, il encourage les Thessaloniciens en reconnaissant ce que cette parole a opéré en eux. Et puis, il y a une deuxième demande. Donc, vous voyez, il y a des demandes précises. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Parce que il y avait des hommes d'abord jaloux du ministère de Paul et d'autres complètement pervers. Et il ajoute que tous n'ont pas la foi. Il y en a qui ont la profession, mais qui n'ont pas vraiment la foi réelle. Tous n'ont pas la foi. C'est pas des gens qui perdent leur salut, c'est des gens qui ne l'ont jamais eu. Il faut bien comprendre cela. Parce que, si vous vous souvenez de ce que nous avons médité hier soir, eh bien, vous êtes au clair là-dessus. Et c'est merveilleux, ces actions de grâce qui nous ont occupés hier soir depuis le verset 13 au verset 17 du chapitre 2e. Et je pense que vous avez pu vous endormir en pensant justement à toutes ces grâces. Vous êtes choisi, ce que nous avons vu hier, dès le commencement pour le salut. Et puis, ce que le Seigneur veut, c'est que vous possédiez la gloire. Vous allez au-devant de quoi? Au-devant de la gloire éternelle. On l'a souligné. Et alors, nous pouvons demeurer fermes. Mais voyez-vous, j'en ai encore fait l'expérience ce matin. Nous avons besoin des prières pour que nous n'ayons que des paroles qui puissent édifier. Un ami me faisait remarquer que un prédicateur lui avait dit des paroles qu'il avait démolies. Oui, c'est grave. Quand quelqu'un est dans la détresse et dans la peine, et qu'on vient encore lui dire que il n'est peut-être pas sauvé, c'est pas ça. Il faut que vous ayez l'assurance de votre salut. Mais que l'assurance de notre salut, on l'a pas en regardant à nous-mêmes, on l'a en regardant à ce qu'il a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fait qui ne peut pas être défait, si vous me permettez le jeu de mots. Il est mort pour nous. Le prix a été payé. Le salut est gratuit. Mais alors, on ne va pas dire, bon, alors péchons, enfin, ça grâce à bon. Ce serait bien la preuve que nous ne sommes pas sauvés. Parce que on sait qu'on est sauvé parce qu'on a reconnu qu'on était perdu, pécheur, perdu. Ça, on le sait. Et alors, Jésus n'est pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. C'est lui-même qui a dit cette parole. Et vous voyez, il peut y avoir, même dans ce qui enseigne, des hommes méchants et pervers. Et puis, tous n'ont pas la foi. C'est vrai. Quand on nous dit que on est devenu pasteur ou prêtre, qu'on ne savait pas faire d'autre, c'est une vocation. Et pendant bien longtemps, en France, par exemple, ça faisait très bien qu'il y ait un fils médecin, un autre avocat, et puis l'autre, dans les ordres. Alors oui, on a eu une formation, tout ce qu'on veut, mais il faut une formation, mais la formation ne suffit pas, il faut la peine. Et si on n'est pas appelé de Dieu, on ne tient pas. Et alors vous voyez, tout en demandant à cet Thessalonicien de prier pour lui, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Le Seigneur est fidèle. Vous pourriez noter cette parole sur une feuille, le Seigneur est fidèle. Et puis, cherchez tous les autres versets qui vous montrent ce que le Seigneur est. Mais en tout cas, il est fidèle. Est-ce que nous pouvons parler de la fidélité de Dieu? Vous avez là notre témoignage. Mais ce n'est pas des théories. C'est des faits que nous aurions à raconter en 1995, hein, on ne peut pas me tromper. Mais 40 ans avant, il était déjà fidèle. C'est vrai. il a été fidèle. Souvenez-vous de ce qu'il a été pour vous dans toutes ces années, puisque nous sommes encore là. Est-ce que nous avons été éprouvés au-delà de nos forces? Non, parce qu'on n'est plus là. Eh bien, il a été fidèle. J'aime beaucoup ce verset du chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, n'est-ce pas, au verset 13, que le Seigneur ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il ne dit pas qu'on n'aura pas d'épreuve, hein. Il dit avec l'épreuve, il vous donnera le moyen d'en sortir. C'est ça qui est beau. Et il l'a fait. Et voyez-vous, c'est toujours dans l'épreuve qu'on voit la puissance de Dieu. Et plus l'épreuve est donc profonde, plus la délivrance est grande. Le Seigneur est fidèle. Ne laissez pas Satan mettre le doute dans votre cœur, parce que vous voyez votre misère, vous voyez votre passé. Eh bien, le Seigneur efface aussi votre passé. Le sang du Christ couvre votre passé. Quant au présent, vous êtes l'objet de la faveur de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui nous dit dans le chapitre 5 des Romains. Quant à notre passé, le sang le couvre, mais pour l'avoir reconnu alors, le passé est confessé. Et puis, pour le présent, nous sommes les objets de la faveur de Dieu, nous avons trouvé accès à sa grâce dans laquelle nous sommes, dit l'apôtre. Nous demeurons fermes, parce que nous savons que c'est la grâce. Et puis pour l'avenir, qu'est-ce que nous avons? Et nous nous glorifions de l'espérance, dans l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est devant nous. Pour le passé, le sang du Christ me couvre. Pour le présent, je suis l'objet de sa faveur. Et puis, pour l'avenir, eh bien, je sais que la gloire est là. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Le malin est là, oui. Satan est là, et nous le savons, mais le Seigneur nous préserve du malin. Alors, ayons les yeux ouverts pour voir est-ce que ça vient du Seigneur ou est-ce que ça vient du malin. Parce que vous savez, c'est pas parce qu'on est au Seigneur que le malin ne va pas venir. Au contraire, autour de qui tournait-il dans l'Ancien Testament? Job, hein? Et Job, quel témoignage avait-il? Dieu rendait témoignage de Job en disant, il n'y en a pas un comme lui. Par ses droits, craignant Dieu, se détournant du mal. Et c'était Dieu lui-même qui sait tout d'un cœur, des pensées d'un homme, de ses paroles, de ses actions, qui pouvait rendre ce témoignage, chapitre 1 de Job, à sa sens, qui vient à rendre ses comptes aussi devant lui. As-tu considéré mon serviteur Job? Il dit, oui, mais enfin, tu l'as béni, mais si tu lui enlèves ses bénédictions, tu verras, il te maudira en face. Et le Seigneur permet l'épreuve. Pas parce qu'il n'aime pas Job, mais pour que Job ait l'occasion de se justifier de l'accusation de Satan. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous bénit seulement. Mais on l'aime parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, on ne discute pas, on se prouve. Il vous préservera du malin. Et dans l'épître de Jean, plus on avance, il est dit, le malin ne vous touche pas. Le monde entier gît dans les bras du malin. Alors, si vous aimez le monde, si vous voulez du monde, eh bien, alors vous aurez affaire à Satan. Le monde entier gît dans les bras du malin. Le monde entier. Mais, vous avez été mis à part par le Saint-Esprit, sanctifié par le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, et alors, nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Jésus l'a affirmé dans sa prière à son Père. Il vous préservera du malin. Nous avons, à votre égard, cette confiance. C'est beau, cette confiance qu'avait Paul. Et je veux dire aussi à la fin de cette dernière retraite, c'est peut-être la dernière. On a toujours pensé que c'était la dernière. N'est-ce pas? Eh bien, oui. nous avons à votre égard, et je n'accepte personne ici, je ne vous connais pas tout intimement, mais je veux croire que vous ne pouvez pas être en contact avec la parole de Dieu, pas en contact avec moi, mais avec la parole de Dieu, et que cette parole ne soit pas glorifiée en vous, et que votre femme ou votre mari ne s'en aperçoit pas, ou vos enfants, et vos parents, pour les plus jeunes, ils sont au Seigneur, la parole de Dieu est glorifiée dans leur jeunesse, et le Seigneur est bien digne d'avoir les premières fleurs de votre vie. Et pas seulement les restes. Parce qu'on est mourant, alors on appelle le pasteur ou le prêtre, parce que quand même, on ne veut pas mourir comme un chien. Pas ça. Alors on fait la grande confession. On faisait ce matin de confession. Mais la confession, elle doit être quotidienne, voyez-vous. On l'esprit à passer. Parce que le Saint-Esprit est en nous, il a fait sa demeure en nous, et il nous signale les choses. C'est lui qui nous signale. Je n'ai pas à la gloire de Dieu. Et on le sait très bien. Tout à coup, alors je m'en juge. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Nous ne pouvons pas les imposer, ces choses-là. Il y a des choses qu'on enseigne à nos enfants aussi, et on voudrait leur éviter certaines expériences que nous avons dû faire. Et peut-être qu'ils ne nous écouteront pas. Alors il faudra qu'ils fassent aussi des expériences salutaires pour les ramener dans le vrai chemin. Mais nous aurions voulu leur éviter cela. C'est pas toujours possible. Alors, que le Seigneur nous donne cette confiance à l'égard de Christ, que vous ferez ces choses, non pas des choses que nous vous avons dites tout simplement, mais que nous vous avons recommandées parce que c'était les paroles du Seigneur. Et verset 5, que le Seigneur, c'est beau ce verset. Hein. Alors, c'est tout la pré-retraite. Hein. Que le Seigneur, maintenant que la retraite est finie, il y en a qui diront, oh ben c'est dommage, cette retraite est finie. Non. On ne peut pas tenir quand même, hein, toujours, comme ça. C'était chargé, comprenez-vous. Mais le Seigneur a montré sa grâce. Que le Seigneur dirige maintenant vos cœurs vers l'amour de Dieu. C'est beau, ça. Il n'y a pas besoin d'entendre une prédication là-dessus, il n'y a qu'à la faire, notre prédication, pour nous-mêmes. Que vos cœurs soient dirigés. Et que ce soit le Seigneur qui vous dirige vers l'amour de Dieu. Comment parlait-il de l'amour de son Père, le Seigneur de Dieu? Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Quand il disait à ses disciples avant de les quitter, vous savez, vous pouvez demander à Dieu, au Père, en mon nom, et vous serez exaucés. Vous pouvez demander en mon nom, c'est-à-dire sur mon compte, je vous donne procuration, mais c'est sur le compte du Seigneur. Vous ne pouvez pas lui demander n'importe quoi. Vous allez lui demander des choses que le Seigneur aurait demandé, et vous serez exaucé. Mais est-ce que le Seigneur aurait demandé cela? Il vivait dans une telle dépendance. Et vous savez, la grande délivrance que l'on a, c'est dans la grande leçon de Gethsémané, quand le Seigneur dit, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi. Il y a des fois certaines épreuves qui viennent, puis on se dit, oh, si le Seigneur voulait m'en délivrer. Mais comment est-ce qu'il a été libéré quand il a pu dire, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et quand on a pu dire, eh bien, que ta volonté soit faite, on a la paix. Parce qu'on sait que rien n'arrive sans sa volonté. Alors on s'en remet à Dieu. Que vos cœurs soient dirigés vers l'amour de Dieu. Il y aurait une foule de choses à dire, mais vous le direz vous-même pour nous. Et puis, vers la passion de Christ. Alors là, il vous faut revoir les évangiles, voir la passion de Christ, c'est une chose. Mais, et c'est là que j'apprécie une traduction vraiment fidèle. Qu'est-ce que c'est que la passion du Christ? Comment? C'est notre salut, bien sûr, hein. Mais aussi, puisqu'il a dit « Je reviendrai », qu'est-ce qu'il attend, lui? De venir, n'est-ce pas? Que l'heure sonne et que c'est Dieu qui connaît cette heure, le Père, n'est-ce pas? Et à l'heure du Père, au jour du Père, mais Jésus nous a bien dit cela, et quelle sagesse, hein? Personne ne sait le jour et l'heure. Ça, c'est vrai, hein? Parce que dire un jour et une heure, comme certaines personnes veulent le faire, ce serait faux pour toute une partie du monde. Parce que c'est pas le même jour. Comprenez-vous, à cause du décalage horaire. C'est clair. Et c'est pas la même heure. Alors, personne ne sait le jour et l'heure. Mais celui qui règne au-dessus de tout, lui, connaît le jour et l'heure. Mais ce sera quand même le même moment. Mais ce sera la même heure, mais pas la même heure sur la terre. Quand les journaux parleront des disparus, ça s'est passé à telle heure de l'autre côté du monde, et puis ça s'est passé à une autre heure là. Mais c'est la même heure, c'est le même moment, disons. C'est le même moment, mais c'est pas la même heure. Et c'est pas le même jour. Parce que quand on a voyagé, quand on a fait un peu le tour du monde pour l'évangile aussi, on sait que c'est pas le même jour. Alors, vous voyez, la précision de la parole, ne doutez pas de la parole. Puis dire, mais comment le Seigneur a dit cela? Mais oui, il l'a dit. Et il savait ce qu'il disait. Mais la passion du Christ, eh bien, prenez dans Apocalypse, chapitre 3, dans l'histoire des sept églises, hein, qui sont mentionnées, dans l'avant-dernière église, qui est Philadelphie. Mais justement, dans le second, il y a une traduction un peu défectueuse. Vous lisez au verset 10, hein? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, a traduit second. Mais alors, ça vous donne pas le sens réel. Je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur la terre habitée tout entière. Cette heure de la tentation, donc c'est l'heure de l'épreuve, hein, de la colère de Dieu. Et il a promis qu'il nous garderait, et c'est Jésus qui parle là. Mais il dit parce que tu as gardé la parole. Et, dans la traduction littérale, la parole de ma passion. Parce que tu as cru en cette passion que j'ai, parce qu'il ne veut pas que une personne soit perdue, il est patient envers tout, parce qu'il veut que tout soit sauvé, hein. Mais il reviendra. Et vous pouvez en être sûr, cela arrivera. C'est notre message de cet après-midi. Si vous savez discerner les signes du ciel, hein, eh bien, sachez discerner l'époque dans laquelle nous vivons. Parce que tu as gardé la parole de ma passion. Ou, si vous voulez, de la persévérance en moi, mais en moi, qui, à tout moment, le Seigneur a cette passion, qui est une passion, ça salue. Alors, nous aussi, sachons attendre. Je te garderai, parce que tu as cru à mon retour, je te garderai de l'heure de la tentation. Donc, il n'est pas question pour le croyant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des épreuves, mais cette heure de la tentation eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, le Seigneur a promis d'en garder les siens, d'en garder son église. Je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Vous voyez, c'est le monde entier qui est touché maintenant et qui sera touché encore plus pour éprouver les habitants de la terre. Alors c'est cela, la patience du Christ. Oui, c'est sa patience. pour le salut des âmes, il a été patient, et il n'a pas repoussé, il a parlé une fois, deux fois, on n'y a pas pris garde, mais il a parlé peut-être encore une troisième fois. Mais un jour, quand le cœur s'est endurci, sa voix s'était. Vous pouvez méditer, eh bien, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience. L'exercice. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que l'apôtre Paul ne parle pas en tant que Seigneur. Il est le messager du Christ. Ce qu'il dit, l'a reçu du Seigneur. Et il leur demande de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. On a vu ce que c'était. Des personnes venaient les troubler. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il leur a annoncé le retour du Seigneur, mais tout en leur annonçant le retour du Seigneur, l'apôtre Paul a travaillé. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Quel exemple, hein? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reçoit? De gauche, de droite, de partout. Des demandes d'argent. Pour l'œuvre du Seigneur, pour soutenir le Seigneur. Bien sûr, mais si nous sommes appelés par le Seigneur, croyez-le, s'il veut que je lui consacre absolument tout mon temps, il saura y pourvoir. S'il veut que je lui donne qu'une partie, eh bien, je travaillerai même n'importe quoi pour subvenir à mes besoins. Que le Seigneur nous parle. Alors, l'exemple que Paul donnait était tel que il était autorisé à leur parler. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, puisqu'il était apôtre, puisqu'il était au service de Dieu, il aurait pu recevoir des Thessaloniciens. Il a accepté de recevoir des Philippiens, mais pas parce qu'il leur a demandé quelque chose. Mais les Philippiens, qui s'étaient convertis au Seigneur par le ministère de Paul, quand ils ont su qu'il était à Thessalonique, ils lui ont envoyé deux fois, pendant ce court séjour qu'il a fait à Thessalonique, ils leur ont envoyé des dons. Et vous savez, il y avait des femmes de qualité qui avaient été converties aussi à Philippe, qui, par exemple, une marchande, Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire et qui habitait Philippe. C'était une marchande, une commerçante. Elle a tout de suite, quand son cœur a été ouvert au Seigneur, elle a ouvert la porte de sa maison et puis elle leur a dit, si vous m'en jugez digne, vous êtes chez vous. C'est beau. Après, ils ont été en prison. Mais elle les a reçus. C'est le Seigneur qui incline les cœurs. Alors, retrouvons cette dépendance du Seigneur et vous aurez des actions de grâce. Quand nous avons un besoin, nous nous enfermons dans notre chambre, nous fermons la porte sur nous, puis nous lui exposons la chose. Et alors, c'est notre contrôle. Et on en frissonne. Et vous savez, c'est depuis le commencement que nous avons fait cette expérience que Dieu sait les choses. Et s'il faut savoir refuser l'argent. Vous savez, un jour, un homme très riche est venu me trouver, qui m'a dit, écoute Gaston, moi, je ne sais pas faire de mon argent, je te donne mon carnet de chèques. Puis, selon les besoins que tu as, parce que je travaillais comme aumônier parmi les tuberculeux à Lesins en Suisse pendant 7 ans, eh bien, tu t'y rejettes. Vous rendez-vous compte que c'était Satan? Et je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Je me souviens encore du chemin où nous promenions, c'était au-dessus de Montreux. Alors lui, il était un bon chrétien, mais il avait tellement à cœur ça, hein. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu te dis? C'était un ami, il est auprès du Seigneur maintenant. Mais il était millionnaire, oui. Et puis il disait, mais toi, tu sais, tu connais les choses. Mais j'ai dit, mais tu m'enlèves ma dépendance. Parce qu'alors je compterai sur toi. N'est-ce pas? C'est un piège. Il ne faut pas que je puisse compter sur un homme, sur un comité, ou sur ceci, sur cela. Il faut que je puisse compter sur qui? Sur le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Ça m'est arrivé une seconde fois, un autre. J'étais tellement persuadé que on devait m'enlever les soucis matériels, puisque j'étais un homme soi-disant spirituel, il fallait lui enlever tous les soucis matériels. Mais alors, je ne pourrais plus prêcher aux autres, si je ne connaissais pas les besoins aussi. Et qui m'a dit, le Seigneur m'a montré que tu dois mettre en défense de moi. Et je lui ai répété, arrière de moi, Satan, il est venu de toi. Sous des visages différents, il faut savoir discerner. Tu vas dire, oh, ben, bonne affaire, maintenant, ben alors je ne prierai plus. Tandis que, quand vous avez un besoin pressant, et justement pour le ministère, pour quelqu'un d'autre, que vous voyez dans la peine, et je ne peux pas lui dire simplement mangez bien, dormez bien, chauffez-vous bien, alors que tu sais qu'ils n'ont pas ces choses-là. Donc, c'est sur moi que le Seigneur compte pour que la prière que je vais faire soit exaucée. Peut-être que je dois donner. Mais alors, il faut que j'aie pour donner. Et vous savez, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est une parole que Jésus a dite, et qui n'est pas dans l'évangile, mais qui était, en fait, qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20. Eh bien, mes amis, c'est une expérience merveilleuse. Quand on lui a dit, voilà, tel besoin, et puis que le lendemain, vous trouvez dans votre courrier un chèque avec une lettre. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me pousse à vous envoyer cela. Et c'était exactement la somme qu'il fallait. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça nous fait voir qu'on a un Dieu vivant. Parce que ça m'a fait contrôler, avant qu'il crie, je répondrai. Pendant qu'il parle, j'exaucerai. Pour que la lettre me soit parvenue, il fallait qu'elle ait été envoyée avant ma prière. Vous comprenez? On fait ces expériences et ce détail de la fidélité de Dieu nous bouleverse. Alors, c'est pas une théorie que nous avons. Mais mettez la parole en pratique. Éprouvez-moi et vous verrez si je ne vous ouvre pas les excuses des cieux. Et puis, le Seigneur est fidèle. L'or et l'argent sont à moi. Mais ayons affaire avec lui. Alors nous serons visités aussi dans ce domaine matériel. C'est Jésus qui nous a appris ça. Votre Père Céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Avant qu'il prie, j'exaucerai, pendant qu'il parle, je répondrai. Et alors quand on vient apporter justement la délivrance matérielle à quelqu'un, il nous dit, mais comment est-ce que vous pouvez faire ça? Bien, c'est une question de témoignage, ça ne vient pas de moi. Ça vient seulement de passer à travers. Mais il ne faut pas que je retienne. Et il faut que je sois fidèle. J'avais demandé ça, alors c'est pas pour moi, c'est pour ce besoin du ministère. Voilà ce que nous devons comprendre. Alors, on a affaire avec Dieu, et si nous sommes fidèles dans ce qui est très petit, le Seigneur le prend aussi. Pour les autres choses. De sorte que, voyez-vous, c'est pas une question matérielle. Qui est la grande préoccupation. C'est une question spirituelle. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Parce que, il y en a qui avaient pris cette cette idée que puisque le Seigneur vient, eh bien, il n'y a plus besoin de travailler, de pourvoir à nos aux besoins quotidiens. Il va venir, alors nous n'aurons plus besoin de rien. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Ça, c'est du désordre. Parce que aussi, c'est pas parce que le Seigneur vient, quel que soit notre travail, faites toutes choses de cœur comme pour le Seigneur. Votre témoignage évangélique, il est principalement dans vos tâches matérielles. Parce que ça, c'est là que le monde vous voit. C'est là que le monde nous observe. Dans nos tâches matérielles, comment est-ce que nous le faisons? J'ai connu un homme, c'était à Cannes, en France. Il était peintre. Et peintre en bâtiment. Et puis, il aimait bien parler du Seigneur. Même à la Bégaume, parce qu'il allait dans le, vous savez, la femme de l'agacant, de Trochois. Le gros agacant. Eh bien, qui habitait Cannes. Pour parler du Seigneur avec autorité, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est peintre en bâtiment? Employer des produits qui conviennent. Que les gens puissent dire, eh bien, ce peintre-là, il n'est pas comme les autres. Et puis, tiens parole. Ça aussi. Ça peut être pour un cordonnier, ça peut être pour n'importe qui, ça. Faire son travail comme si c'était pour le Seigneur. Faites toute chose de cœur comme pour le Seigneur. Alors, là, jusqu'à ce qu'il vienne. Faut pas dire, ben, maintenant, j'attends le Seigneur, et puis maintenant, je me relâche, non? Votre témoignage, et c'est ça vraiment la vraie évangélisation ici. C'est ce qui vous permet, après, de répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Parce qu'on vous dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas comme les autres? Bien là, vous n'assassinez pas quelqu'un avec le nom de Jésus. Comprenez-vous? Mais vous dites le nom de celui qui a changé votre vie et qui vous a dit, parce que je suis le Seigneur, il peut se moquer, mais c'est pas cela, ça le fera réfléchir. Ça nous autorise à parler. Et c'est ça que Paul veut inculquer aux Thessaloniciens. Je vous ai donné un exemple pour que vous puissiez m'imiter. Et il avait recommandé la parole par sa vie. Relisez le chapitre 2 de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens et vous verrez ce qu'il avait été avec lui-même. Et alors, quand à ceux qui vivent dans des ordres et qui ne travaillent pas, il s'occupe de quoi alors? De futilité. Puis c'est vrai ça. Il s'occupe de futilité. À couper les cheveux en quatre de certains textes. Alors, nous ne voulons pas nous occuper de futilité, nous voulons nous occuper de la personne du Seigneur et nous l'attendons. Mais en travaillant, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Évidemment, le travail a été rendu pénible par la chute, mais maintenant nous avons ce verset magnifique, c'est que nous bénissons Dieu pour le travail, et puisqu'il a dit que nous devons travailler, nous pensons qu'il y avait une bonne raison de donner du travail, mais j'espère que vous n'avez pas pensé que vous mettriez sur votre tombe le travail plus sa vie. Hein? On a comme moustache sur leur tombe, sur leur pire tombe. Le travail plus sa vie. C'est pas Christ qui était la vie. C'était le travail. Alors il y avait tellement de travail, on n'a pas pu s'occuper de sa femme, comme il fallait, ou de ses enfants. Vous comprenez? C'est pas ça. C'est le Christ qui doit être notre vie. Et alors, on travaillera paisiblement, on ne pense pas uniquement à l'argent, avoir une situation plus élevée. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est une belle exhortation. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ce sera une solitude et qui peut lui être heureux dans son rêve. Il en éprouvera de la honte. mais ne le regardez pas comme un ennemi, vous voyez, mais avertissez-le comme un frère. Et quand nous allons pour avertir quelqu'un, eh bien, sachons nous mettre plus bas que lui. Et c'est comme ça que nous pouvons gagner son cœur. En lui disant, j'ai quelque chose à te dire, mais c'est pas parce que je te juge, mais je voudrais quand même t'avertir. Mais je suis comme toi quant à Dieu. Comme Élie l'a dit à Job, je suis fait d'argile, moi aussi. Je peux tomber, moi aussi. Mais on ne se présente pas comme supérieur. On s'avertit en frère. Qui sait très bien que dans un autre moment, on pourrait flancher. Le verset 16, c'est la conclusion. Que le Seigneur de la paix, ou le Seigneur de paix, vous donne lui-même la paix. Est-ce que nous l'avons la paix? Qu'est-ce qui peut la donner? C'est lui, hein, c'est Dieu. Et comment est-ce qu'on a la paix en croyant sa parole? Alors on a la paix. En tout temps et de toute manière. C'est beau. Vous n'échappez pas à ça. En tout temps. Ah oh, mais il y a des temps où j'ai la paix, puis il y a d'autres temps où j'ai pas la paix. Non, c'est pas vrai. Le croyant doit avoir en tout temps la paix. Et si vous êtes troublé, vous allez au Seigneur et vous confessez votre trouble. De toute manière. C'est quelque chose de merveilleux. De toute manière. Que le Seigneur soit avec nous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main, et nous l'avons dit, n'est-ce pas, dans le premier soir, il signait ses lettres, même s'il les dictait, il les signait. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris, puisqu'il y en a certains qui écrivait en prétendant que c'était Paul, examiné de Paul. Puis, en finale, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Est-ce que vous trouvez qu'elle est belle, cette deuxième lettre? Mais pas, on aime beaucoup la première épître aux Thessaloniciens. Mais on néglige bien souvent la deuxième aux Thessaloniciens. Et pourtant, il faut les mettre ensemble comme toute la parole. Alors, quant à ces questions, la question 1, l'attente constante du retour du Seigneur doit-elle nous conduire à l'inaction parce que le Seigneur vient, ben on arrête? Non, au contraire. S'il y a un temps où l'Église attendait le Seigneur, c'était quel temps? L'Église primitive. Ils attendaient le Seigneur dans leur existence. Hein. Eh bien, ça n'a pas paralysé l'évangélisation, loin de là. En l'espace de 30 ans, de Jérusalem, la capitale juive, l'Évangile avait passé, était à Rome, en ayant passé par Athènes, la capitale de la sagesse humaine, et par Corinthe, la capitale de la luxure de ce temps-là. Hein. Eh bien, vous voyez, il y avait eu tout un travail. Et l'attente du retour du Seigneur n'est pas pour nous laisser dans l'inaction. Au contraire, nous savons que le temps est court et nous avertissons les âmes. Deuxième point. Et tout ce qu'on a à faire dans le travail, on le fait pour le Seigneur. Les instructions et les exhortations de l'apôtre sont-elles encore valables pour nos communautés? Et la parole de Dieu demeure éternellement. C'est la base et il faut revenir à ces principes. Oui, alors vous avez certainement répondu. Quelle autorité Paul avait-il pour exhorter les Thessaloniciens à l'imiter? Eh bien, c'était sa propre vie. Il avait montré dans sa vie, n'est-ce pas? Ce que les autres devaient être. Il leur avait pas simplement dit, vous devez. Mais en le voyant, on savait ce qu'on devait faire. Comprenez-vous? Alors, ne recherchez plus dans votre église un modèle. Devenez le modèle. C'est toujours parce que l'église parfaite, vous la trouvez pas nulle part. Hein. Alors, devenez un modèle. Là où vous êtes. Ne cherchez plus un modèle. Et qui est le modèle? C'est Jésus. Alors, que vos cœurs soient dirigés vers la passion du Christ. Regardez Jésus. Et regardez comme il a été patient avec ses disciples. Il y a eu un moment où il semble que le Seigneur n'en pouvait plus. Quand ils sont redescendus de la montagne avec ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et qu'ils ont trouvé cet homme qui était venu vers les autres disciples avec son enfant qui était lunatique, et que les disciples n'avaient rien pu faire, il a dit que le Seigneur a soupiré en disant « Ô génération incrédule et perverse, juste à temps vous supporterai-je. Juste à temps serai-je avec vous. » Si c'est pas drôle de vivre au milieu de gens qui grossiers souvent et qui ne comprenaient pas le Seigneur, qui disaient qu'ils avaient tout compris, qu'ils avaient rien compris. Est-ce que vous avez compris les choses, disait Jésus? Oui, au sujet des paraboles. Eh bien, alors, regardez cette patience qu'il a eue pour notre salut. Paul était vraiment un exemple. Le modèle à imiter, c'est Jésus. Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Et alors, qu'apprenons-nous chaque jour au sujet de l'amour de Dieu et de la passion du Christ? C'est une question qui revient sur ces textes. C'est chaque jour que nous devons penser à cet amour de Dieu et à cette passion du Christ. Et alors, je me demande maintenant, est-ce que le thème que nous vous avions annoncé, à qui sont attribués les miracles, les signes et les prodiges qui précéderont l'apparition du Seigneur en gloire avec tous les siens, c'est à qui? C'est à l'ennemi, c'est à Satan. De sorte que penser que l'Église va recevoir pour elle maintenant, dans son état, une nouvelle onction pour faire de grands miracles. Vous croyez que c'est cela que dit la parole pour la fin? Qu'est-ce que Jésus, lui-même, quand il était à Nazareth, et qu'il a rencontré l'incrédulité absolue des siens, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne put faire aucun miracle. Mais l'Église, dans son incrédulité, dans son infidélité aujourd'hui, elle veut, elle prétend qu'elle va faire tous les miracles possibles. Et on vous lance à aller voir à Toronto ou ailleurs, tout ce qui se passe, et on vous fait croire que la bénédiction divine va venir sur une Église infidèle. Ce n'est pas vrai. Alors, on vous mène en bateau. Et puis, c'est la préparation, justement, de l'Antichrist, qui va faire, lui, ses miracles, par la puissance de Satan. Alors, vous êtes avertis, vous pouvez refuser ce que je dis, c'est votre affaire, mais, je vous le dis, et dans ce qu'on peut lire dans certains de leurs livres, il ne voit plus rien pour Israël, alors que nous croyons qu'il y aura un renouveau, oui, mais pour Israël, et qu'il y aura de nouveaux témoins pour annoncer l'évangile du royaume à toutes les nations de la terre, en peu de temps. Il faudrait entrer dans les questions prophétiques, mais nous ne pouvons pas. Mais, en ce moment, méditez la parole, cherchez la parole de Dieu. Est-ce que Dieu peut nous bénir tant que nous vivons loin de lui? Mais si vous revenez à lui, eh bien, vous verrez que le Seigneur, dans votre vie individuelle, mais collectivement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Mais dans votre vie individuelle, vous pouvez encore faire des expériences merveilleuses, parce que le Seigneur ne change pas. Mais quand une église se prétend l'église de Jésus-Christ et vit dans l'infidélité de tant de choses, ou alors on entend les chrétiens qui se plaignent tout le temps, Ils murmurent, ils remettent en question la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Bien, relisez Malachie, chapitre 3. Que l'Éternel dit, verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, ou ont été dures contre moi. Et vous dites, mais qu'avons-nous dit contre toi? Hein? On n'est plus conscient. Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Voilà ce que, souvent, on est tenté de dire, parce qu'on dit, mais il n'y a pas de justice. Et je vous ai montré pourquoi la justice ne se manifeste pas dans le temps de la grâce, mais elle se manifestera un jour. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. C'est ça, c'est le témoignage individuel. On trouve quelqu'un qui on peut se parler l'un à l'autre. Et alors, c'est là qu'il y a une bénédiction, que deux valent mieux qu'un, quand on peut se parler l'un à l'autre. Et si on est d'accord, on peut prier ensemble. Et il est dit que le Seigneur exaucera dans le chapitre 18 de Matthieu. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'est beau. Hein? Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et alors, on nous dit, mais il y a un tas de textes qui disent que le désert va refleurir, etc. Mais voilà, le désert de notre cœur va refleurir. Et puis, on ne s'humilie pas sur cet état. Et on prend des versets qu'on isole de leur contexte, qu'on sort du contexte, et qui sont valables, mais pour un autre temps. Pour le temps où le Seigneur règnera sur la terre. Alors, il y aura la bénédiction, sans mesure, et la guérison pour tous. Comprenez-vous? Tandis qu'aujourd'hui, on vous offre la guérison. Et on dit, la guérison, moyen d'évangélisation. Hein? Parce qu'on attire les gens. Tout le monde est malade. Tout le monde a son cancer. Alors, les gens viennent. Nous pouvons vous guérir, etc. Alors, ayez du discernement. C'est ce que nous verrons cet après-midi. Dieu notre Père, nous voulons te remettre maintenant ta parole et te demander qu'elle soit glorifiée dans chacune de nos vies. Et qu'en rentrant chez nous, dans notre foyer ou dans notre communauté, nous puissions être à la louange de la gloire de ta grâce. Pour le bien des âmes que nous rencontrerons, que nous ayons des paroles qui édifient, une conduite qui te ressemble et qui étant devenu imitateur de Dieu, nous puissions être un témoignage là où nous vivons. C'est notre prière en te demandant encore de bénir cette maison et les sœurs qui nous ont reçus, que tu répondes aussi à leurs besoins et que tu donnes ta lumière et ta clarté à tous ceux qui te cherchent.